On va passer maintenant au signé consigné. On va revenir sur l'un des gros dossiers là en ce moment pour le gouvernement, c'est l'affaire des violences urbaines après la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Le match avait lieu à Budapest, mais la casse a eu lieu notamment et principalement à Paris. Et on va voir justement ce qu'en ont pensé les Français. Et c'est le résultat d'une étude ELAB pour BFM TV. Vous allez détailler, François Gapillan, les Français sont exaspérés.
Bonsoir à tous. Le triomphe ou la violence? Eh bien, incontestablement, les Français, à commencer par les retraités et les électeurs du Rassemblement National, retiennent avant tout le désordre consécutif à la victoire du PSG samedi soir en finale de Ligue des Champions. Une opinion choquée et très majoritairement persuadée que ces événements déplorables sont, vous le voyez, le reflet d'une montée inexorable de la violence dans notre pays, et pas un cas à part. Ce qui explique sans doute au moins en partie une autre évolution, regardez celle de nos habitudes. Ainsi, plus d'un Français sur deux dit avoir renoncé au cours des dernières années à participer à une célébration populaire par peur que la situation ne dégénère. On s'autocensure en quelque sorte, renoncement qui touche davantage les habitants de l'agglomération parisienne et les femmes. Le ras-le-bol est donc, vous le disiez, énorme. Les solutions attendues sont à sa hauteur en quelque sorte. Celle qui est jugée la plus efficace par les sondés, c'est l'obligation pour les auteurs de dégradation à rembourser les dégâts, rembourser eux-mêmes les dégâts. Près de 9 Français sur 10 sont pour, idem pour le durcissement des peines, et 7 Français sur 10, tout de même, sont également favorables à la suspension des aides sociales aux familles de mineurs ayant commis des actes de violence. Quant aux conséquences purement politiques des événements du week-end dernier, le RN en sort grand gagnant. 47% des sondés disent faire confiance à Marine Le Pen, 46% à Jordan Bardella, pour agir efficacement contre ce type de violence. Assez loin dernière, Bruno Retailleau, Gabriel Attal ou encore Éric Zemmour, la première personnalité de gauche arrive en 10e position, c'est François Hollande, puis Jean-Luc Mélenchon a seulement 18% de confiance.
Merci François Gapillan, ça va donc être le thème maintenant de notre débat avec Charles Consigny, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Elsa Marcel qui est avec nous, avocate, vous aussi au barreau de Seine-Saint-Denis, vous êtes conseillère municipale Révolution Permanente à Saint-Denis. Pierre Fitte, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de venir débattre avec votre confrère finalement, Charles
vous,
Consigny.
Il faut préciser que vous défendez certaines personnes qui ont été interpellées samedi soir.
Oui.
Alors Charles Consigny, la réponse, la solution, elle est politique.
Oui, mais je suis impatient d'avoir l'analyse de ma consoeur sur ce sujet, puisque je pense que nos avis divergent profondément.
C'est possible. Ouais.
Moi, je pense que effectivement, à mon sens, le problème n'est pas tant ni policier ni même complètement judiciaire. Il est à prendre à la racine du mal. Et je pense que la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on a comme ça une jeunesse en rupture de banc. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et je constate que, vous savez, on a écrit le livre Les territoires perdus de la République en 2002.
Oui, au début des années 2000, oui.
On est bientôt 25 ans plus tard et les territoires perdus sont toujours perdus pour la République et ça ne s'est pas amélioré. Et je constate plutôt que ces dernières années, on a finalement un peu laissé tomber le sujet, plus qu'autre chose. Mais je comprends complètement l'exaspération qui est témoignée là par les Français dans ce sondage. Et ma position est qu'il faut être très ferme avec ces violences et qu'on peut pas avoir la moindre mensuétude pour ce type de fait.
Elsa Marcel.
À moi ?
Oui. Un débat.
Bah, effectivement, je pense que je vais avoir une position assez divergente, sans surprise, et dire que en réalité, moi, je suis assez fascinée du temps que vous pouvez passer sur cet événement, puisque ça va faire 5 jours, je pense. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez terminer, si on va continuer à en parler pendant encore 1 semaine, 2 semaines, si on va entendre Jordan Bardella nous dire qu'il y a une guerre civile, si on va entendre Éric Zemmour nous parler du djihad du quotidien, et si tout ça va longtemps servir à cette offensive sécuritaire et d'extrême droite qui a effectivement un sens politique très très clair. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'on est loin d'avoir un problème d'autorité dans ce pays, on a un problème d'autoritarisme. Parce qu'en fait, ça fait plus de 10 ans que la jeunesse, si vous voulez, elle sort dans la rue pour manifester, on lui envoie la police. Elle sort dans la rue pour faire la fête de la musique, on lui envoie la police, et c'est Steve Maya Canisso en 2019 qui meurt. On lui envoie la police quand elle fait des rêves parties, on lui envoie la police quand elle veut se baigner dans le canal Saint-Martin, et on lui envoie la police quand elle va faire un concert au Vélodrome et quand elle va écouter Jul. Donc la réalité, si vous voulez, c'est que c'est le produit d'une politique sécuritaire, organisée par l'État.
S'il n'y avait pas eu la police samedi soir, il n'y aurait pas eu de violence.
S'il n'y avait pas eu la police samedi soir, non, je pense qu'il n'y aurait pas eu de violence. Moi, ça fait 15 ans que je fais des manifestations. Les manifestations qui se passent le mieux, c'est les manifestations où il n'y a pas la police surarmée qui attaque les cortèges. Et quand vous regardez les images par ailleurs de ce qui s'est produit samedi soir, vous voyez que le dispositif, il correspond aux annonces qui avaient déjà été faites pour Laurent Nunez, où il expliquait avant même que la finale se déroule qu'il y allait avoir des exactions qui allaient être commises, donc qu'il fallait déployer 8000 policiers surarmés. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le récit commence à se fissurer.
Comment expliquer alors ces tirs de mortier sur les policiers ?
Mais déjà, parce que je pense qu'il faut un petit peu sortir de ce journalisme de préfecture et de ce langage, effectivement, policier.
Non, c'est pas des journalistes de préfecture, c'est journalistes de terrain, c'est ceux qui sont sur place.
Bah, écoutez, moi, j'ai été dans les salles de comparution immédiate et j'ai défendu des mineurs qui ont été déférés, un mineur de 14 ans qui n'a pas fait un tir de mortier, qui avait un feu d'artifice dans son sac à dos, en fait, qui a été interpellé à la 60e minute du match, qui a passé non seulement une nuit en garde à vue, qui a été déféré au dépôt, dont on a fracassé la tête contre une caisse, qui a eu le nez qui a saigné pendant 48 heures, qui a essayé de déposer plainte et on en a dissuadé. Vous regardez les images aujourd'hui, le récit dominant dont on nous rabâche les oreilles depuis samedi soir, il commence à se fissurer. Il y a tout le monde qui vous explique qu'ils ont été frappés, tabassés, que la réalité, c'est quand vous avez des policiers chauffés à blanc, dont ils savent qu'ils vont être soutenus.
Victimes des policiers.
Bien sûr que c'est les jeunes qui ont été victimes de violences policières.
Les 178 policiers blessés.
Dites un mot, je vous en parlerai des 178 policiers.
Est-ce que après vous envoyez une note d'honoraire au Rassemblement National?
Je ne comprends pas votre blague.
Non, parce que moi, si j'étais le Rassemblement National, là, votre prestation de ce soir, je la paye au tarif horaire de la publicité, si vous voulez.
Oui, mais...
Parce que, pardon de vous dire que, honnêtement, franchement, après ce qu'on a vu ce week-end, vous voyez, moi, week-end, j'ai vu les images, j'avais aucun débrief de personne, ni de Bardella disant c'est la guerre
civile. Mais vous avez vu quelles images,
Zemmour. Les images
de BFM TV, oui.
Là, qui sont.
Où à 22h30, il y avait déjà un commissaire de police sur le plateau télé en train de vous expliquer ce qui était en train de se passer. C'était des rixes abominables, des fiasques.
Mais
elles
ne sont pas inventées.
Moi, j'en ai d'autres des images qu'on a beaucoup moins vues sur BFM TV.
On ne peut pas effacer a posteriori la réalité, si vous voulez. On n'est plus en URSS, ne vous en déplaise.
Moi, je vous dis que votre réalité, elle est fausse. La réalité, c'est celle des parquetiers, des policiers et des journalistes. Votre réalité est la nôtre, excusez-moi de vous le dire.
Les journalistes mentent.
Oui, certains journalistes ont une présentation orientée des faits, si vous voulez. Je suis désolée de vous le dire.
Les avocats disent toujours la vérité.
Combien de journalistes ont parlé du jeune éborgné à Bobigny? Ali Douaral dénonce et que moi je le relais sur
la
vérité. Et je vais vous dire, moi, je suis depuis fort longtemps, en tout cas depuis les Gilets jaunes, contre l'utilisation du LBD 40, que je trouve être une arme très dangereuse, inutilement dangereuse, et qui effectivement aboutit à ce genre de drame comme ce jeune éborgné qui l'a été d'une balle de LBD 40. Donc vous voyez, j'étais parfaitement au courant de ça, on en a parlé. Mais en revanche, vous pouvez pas dire non plus que les voitures brûlées n'ont pas existé. Moi, je sais pas, j'ai des gens, par exemple, qui habitent dans les quartiers où ça s'est passé, qui m'ont envoyé leurs vidéos. C'est pas les vidéos des parquetiers de BFM TV. Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a deux problèmes dans ce que vous êtes en train de dire. Il y a un problème qui est comment est-ce que le récit médiatique et la petite polémique qui s'est installée depuis 5 jours.
Le récit médiatique, c'est la réalité.
Laissez-moi
factuelle.
Terminer. A été construite à partir d'un certain nombre d'images. Parce que l'écrasante majorité de ce qui s'est passé, des milliers de jeunes qui sont descendus dans la rue, c'est des jeunes qui sont descendus faire la fête.
Oui.
Et sur les 900 interpellations, vous savez très bien qu'en réalité, ils tapent sur tout le monde, ils interpellent ceux qui peuvent, et ensuite, on vérifie après, et de manière générale, c'est une politique d'intimidation. Quand vous avez 90 mineurs en garde à vue qui sortent complètement traumatisés au point ils peuvent même plus parler parce qu'ils sont en état de choc, c'est pas parce qu'ils étaient en train de piller. Enfin... Ça, c'est la première chose. Non, mais la première chose, c'est qu'évidemment,
le
récit qui est fait aujourd'hui,
ils ont fait ce week-end.
Mais comment
ça
livrer à eux-mêmes? Vous trouvez que c'est pas normal qu'on puisse exprimer sa joie et sortir regarder un match de foot avec ses amis comme on a vu en
jour?
Ça, c'est votre société, c'est pas la mienne.
Pardon, mais moi, j'ai fait un peu de comparution immédiate aussi, et j'ai fait du droit pénal.
Ça fait sûrement longtemps que vous en avez plus fait.
Détrompez-vous. Et j'ai fait du droit pénal des mineurs aussi, donc je connais un petit peu le sujet. Et les mineurs, effectivement, livrés eux-mêmes. Honnêtement, madame, honnêtement, pardon.
Attendez, chacun son tour, si on comprend rien.
Croyez-moi que les bobos comme vous ne leur rendent pas service à ces mineurs.
Mais
la culture de l'excuse, ça ne leur rend pas service.
Mais de quoi vous parlez?
L'incrimination permanente de l'État, ça ne leur rend pas service.
Mais vous
les enfoncez dans leur marasme avec votre rhétorique.
Mais de quoi vous parlez? C'est une organisation répressive.
Vous niez la réalité. Mais il n'y a pas d'organisation répressive en France, enfin. On est un pays où il n'y a pas de contrôle sur la sécurité. Mais ouvrez les yeux. Les gens se font sont agressés dans les transports en commun. Les gens se font voler leurs biens. Les policiers se font tirer dessus à coups de mortier. On a eu des scènes de guerre civile dans tout Paris, sur les Champs-Élysées, sur la rue de Wagram, sur la place des Termes, sur la place de l'Étoile. Excusez-moi, les Français voient ça, ils sont choqués comme tout. Et vous venez expliquer que ça n'existe pas. Enfin, il faut ouvrir les yeux.
Vous devriez le couper lui plus souvent.
Non, mais c'est bon, j'ai fini.
Alors, allez-y.
Allez-y.
C'est son émission.
C'est le principe.
Alors allez-y.
Non mais si vous voulez, là je pense que la réalité précisément elle est complètement autre que celle que vous décrivez, parce que si vous êtes bien dans un pays où il y a une offensive répressive quasiment continue depuis 10 ans, où il y a une loi liberticide qui est adoptée, où il y a des crimes policiers en permanence, où vous voyez ce qui s'est passé à Sainte-Soline, où en fait il y a des policiers qui sont en train d'expliquer qu'il faut tirer dans les couilles et tuer des gauchistes,
mais
et c'est ça la
sujet,
réalité de la pratique policière. Vous êtes en train de m'expliquer qu'il n'y a pas de sécurité en France. Moi ce que je vous dis c'est qu'il n'y a que ça.
Visiblement dans les rues de Paris il n'y en avait pas beaucoup.
Mais bien sûr que si, aujourd'hui ils sont en train de déférer des jeunes en comparution immédiate. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des réquisitions de 9 mois fermes avec mandat de dépôt pour un jeune qui a craché sur un policier? Mais vous
oui,
êtes
absolument.
Fou.
J'aurais
mais vous
les
êtes
mêmes
fou. Vous voulez enfermer un enfant de 19 ans
non,
qui a craché
pas,
sur un policier?
Pas un enfant,
mais vous vivez dans quel monde? Et surtout, si vous voulez, il y a un deuxième problème de ce que vous dites, c'est qu'il y a votre violence et la nôtre. C'est les mêmes sur les plateaux télé qui passent leur temps à nous expliquer qu'un génocide qui se produit pendant 3 ans, c'est pas un problème, que des enfants qui meurent en Palestine.
C'est un dégât.
Vous allez tous m'expliquer que ça n'a aucun rapport. Ce que je vous dis, c'est le récit dominant tel qu'il est diffusé sur les plateaux télé. Moi, je trouve qu'un abribus cassé, oui, c'est pas très grave par rapport à un génocide. Je trouve que la guerre civile, si elle existe, quand on entend ça dans votre bouche, dans celle de Jordan, c'est pas vous qui allez m'expliquer comme on leur rend service.
Croyez-moi,
quand vous m'expliquez qu'il y a une guerre civile, alors qu'en réalité, la guerre, elle existe, et c'est celle qui est en train de se produire.
Entre le conflit israélo-palestinien et là, c'est
le rapport. C'est la manière dont vous traitez ce que c'est que la violence. Moi, je considère que la première violence, elle est sociale. Vous donnez le choix aux porte-paroles de l'armée israélienne qui tous les jours déverse sa propagande de guerre. Est-ce que vous appelez la violence? Est-ce que vous appelez le problème de la jeunesse? Est-ce que vous appelez les territoires? Je terminerai sur ça. Il a son émission tous les jours.
Ça fait 25 ans.
Mais c'est un débat aussi.
Oui, bien sûr, mais il a fait que parler.
Oui, d'accord.
Et je dis ça, et c'est pour ça que le problème, c'est un problème de position politique. C'est un problème de position politique.
Écoutez,
écoutez ce témoignage. Il y a aussi dans les rues de Paris, il y a des riverains, il y a des
bien
gens
sûr.
Qui le matin sortent et disent ma voiture est cassée,
oui.
L'abribus ou le mobilier urbain.
Il y en a eu, hein.
Mon commerce est pillé.
A été
oui,
dévasté.
Oui, il y a eu des micro-ondes volés dans des dartiens, je les ai vus.
Et ça, c'est pas grave.
Non, je considère que
grave.
Non, moi je mets pas ça sur le même plan qu'un enfant éborgné. Je mets pas
non,
ça sur... et surtout ce que je dis c'est que c'est
attends,
l'État
si
qui est responsable.
Je voulais juste finir parce que il y a l'animatrice de télévision Karine Le Marchand qui a poussé un coup de gueule.
Ah oui.
Regardez.
Bah, j'en doute pas. Ouais.
Je me balade dans Paris là, je suis passée par les Champs-Élysées et je me dis mais en fait ça ne redescend pas ma colère. Ce qui est sûr c'est que ces petits cons, quand ils sont contents, ils cassent, et quand ils sont pas contents, ils cassent. Donc ça s'appelle des casseurs, tout simplement. Ce serait bien d'ailleurs, pour une fois, qu'on publie... alors les noms, vous allez nous dire non, on peut pas publier les noms, mais qu'on publie des initiales avec les sanctions qu'ils ont eues, tous ces mecs-là. Combien ils ont pris de tôle? Combien ils doivent donner d'argent à la société? Parce que qui est-ce qui va payer? C'est encore les assurances, c'est encore les impôts, c'est encore moi. Moi, je n'ai pas à payer pour ces cassos. Je suis désolée. Et à un moment donné... les casseurs doivent payer, mais au sens large, ils doivent payer sur leur argent, sur leurs allocs s'ils ont des allocs, sur leur salaire sinon, vas-y, à la source, boum, terminé. Ils doivent être fichés et ils doivent faire de la tôle.
Les casseurs doivent payer, doivent réparer.
C'est abominable. Non mais je sais pas comment on peut dire des horreurs pareilles en toute tranquillité. Quelqu'un, je sais pas ce qu'elle connaît de sa vie, qui passe son temps à présenter des émissions à la télé et qui vit, à mon avis, mais à un niveau, c'est expliquer que des enfants doivent aller en prison, que des jeunes adultes doivent aller en prison, c'est des mineurs. Non mais je veux dire, et de dire. Mais je vous parle
mais
des mineurs et des jeunes.
Pourquoi il y a des mineurs là-dedans?
Mais le principe des casseurs. Attendez, pour qu'on avance un peu dans le débat. Parce que c'est des propositions.
J'aimerais bien dire un mot à un moment donné.
C'est des propositions faites par des députés, par M. Lecornu également, qui voudrait prendre une partie des allocations familiales pour rembourser la casse. Est-ce qu'effectivement, il faut trouver un système pour faire payer les casseurs?
Bien sûr que non. Déjà, moi, je ne parle pas de casseurs. Ça, c'est un langage construit médiatiquement. Pour moi, ça n'existe pas. C'est pas un casseur.
Quand on détruit un abribus, qu'est-ce qui se passe?
Oui, non mais moi, je ne détruis pas les abribus, c'est pas une revendication en soi. Mais ce que je vous explique, c'est que la manière dont le récit est construit autour de cette
réalité, c'est une restructuration de l'abribus.
Non, j'ai pas fini, c'est
non, non, là c'est bon, madame.
Mais c'est pas vous qui animez le plateau.
Alors, moi, je commence à en avoir marre, si vous voulez.
Oui, non, plusieurs fois. Non, mais attendez, vous laissez répondre.
Ça fait plusieurs fois que j'ai des interlocuteurs qui sont complètement endoctrinés à gauche et qui appliquent une méthode.
Mais comme ça, là, vous êtes à la télé tous les jours.
À monopoliser le cracheur. Mais madame,
mais déposer un CV,
si vous avez tant que ça envie de faire de la télévision, faites déposer votre candidature.
Attendez.
Prenez la place de madame.
Un abribus cassé, mais oui, j'ai vu.
Si je peux,
un abribus cassé.
Si je peux dire quelque chose,
c'est un abribus cassé.
Si je peux dire quelque chose, moi je trouve ça très sympathique. J'ai vu sur votre compte Twitter que vous revendiquiez marxiste. Effectivement, vous êtes dans cette démarche, dans une démarche très politique.
Membre de Révolution
Permanente. D'ailleurs, on présente un candidat à la présidentielle, c'est Anas Kazib. Et effectivement, on a un projet politique très clair et on est contre le projet que vous défendez.
Donc, manifestement, vous êtes totalitaire, c'est très bien. Vous accusez...
Mais vous avez fait la campagne de Valérie Pécresse.
Attendez. Il faut vraiment que chacun...
Manifestement, puisque...
Mais vous êtes complètement radicalisé du côté de la bourgeoisie.
Vous ne laissez pas vos interlocuteurs répondre.
Ah si.
Donc, moi, je suis désolé, quelqu'un qui ne laisse pas parler son interlocuteur, à mes yeux, c'est un facho. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense effectivement que vous êtes dans une démarche qui est une espèce de fascisme de gauche qui malheureusement s'est beaucoup répandu ces derniers temps et vous mettez effectivement sur le même plan des choses qui n'ont absolument rien à voir. Et à la limite, je vais vous dire, Bardella devrait, et Zemmour devrait vous payer pour vos interventions, madame.
Non, mais vous êtes en boucle. La réalité, c'est que vous, votre projet, les politiques aussi, monsieur.
Vous refusez de voir la réalité.
Votre projet, il est cohérent.
On l'a eu là, je suis désolé. On le voit. Il y a eu des débordements sans précédent.
Et comment on y met fin, Charles ?
Parce que
la question est de savoir, c'est il y a la Coupe du Monde en 9 jours, il y a des craintes de voir de nouveau ces scènes dans Paris ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait de...
Non, mais c'est un problème qui est très vaste. Alors, on ne peut pas reprocher au pouvoir public effectivement d'installer quelques policiers sur place pour essayer d'avoir un tout petit peu le contrôle de la situation. S'ils le faisaient pas, on leur reprocherait de ne pas le faire. Donc ça, c'est effectivement une première chose qu'il faut faire. Ensuite, moi, je comprends tout à fait les réquisitions du parquet que vous avez citées tout à l'heure.
Et
je
qu'on pense qu'ils ont les allocs
parfaitement
aussi.
Raison.
D'ailleurs,
je pense qu'il faut effectivement taper au portefeuille, parce que les parents sont complètement déresponsabilisés dans cette histoire, et je comprends fort bien que ça exaspère les gens, et ça, c'est un package, si vous voulez, global, qui doit être fait, mais bon, ça fait 25 ans que ça dure, et ça fait 25 ans qu'en réalité, on ne traite plus ce sujet. C'est juste ça qui se passe, et vous pouvez... Enfin bon, moi, je vois pas l'intérêt de votre cirque, mais c'est
oui,
pas
voilà.
Grave.
Non, mais,
allez-y.
Reprenons, parce que si vous voulez, moi, évidemment, que je fais de la politique, je m'en cache pas, je le dis, encore une fois, on le disait, je suis très contente parce qu'on va pouvoir exprimer ça de manière globale dans le contexte de la présidentielle où on va défendre la candidature d'Anas Kazib. Mmh. Et face à vous, si vous voulez, vous pouvez pas me dire que vous en faites pas parce que votre position, elle est cohérente. C'est pas qu'un problème de sécurité, c'est que vous, vous avez la position de ceux qui pensent qu'il faut faire la guerre aux classes populaires, qu'il faut repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Vous avez fait campagne pour Valérie Pécresse qui a fait ça.
Et moi, je suis même pour 70.
La dégressivité des allocations chômage, supprimer 150 000 postes dans l'administration, donc vous m'étonnez que les plateaux télé, ils préfèrent parler des vitrines cassées toute la journée, parce que si les gens ils connaissaient la réalité de votre programme social, ils seraient contre, et c'est pour ça que les plateaux télé sont en boucle sur ces polémiques en permanence, alors que c'est déconnecté avec la réalité de la vie de l'immense majorité de la population et sur les allocations
chômage.
Et vous voyez que c'est aussi une politique de guerre aux classes populaires, saisir les allocations, mais c'est jeter les gens dans la précarité.
Donc finalement, si je vais au bout...
Mais de quoi vous parlez ? C'est des enfants qui... Mais comment vous pouvez permettre de parler avec un mépris pareil ? Qu'est-ce que vous passez votre vie sur les plateaux télé ?
Mais j'en ai eu plein des dossiers comme ça.
Vous n'avez jamais travaillé de votre vie.
Mais j'ai été avocat, je suis resté... Mais tu ne peux pas savoir le temps que j'ai passé dans les tribunaux, dans les cours d'assises, dans les tôles, au JLD. J'ai fait que ça, j'ai vu la réalité de ces gens. J'ai vu les rixes entre mineurs, j'ai plaidé pour des mineurs à la cour d'assises, des jeunes qui s'entretuent parce que les parents...
Et du coup, votre solution, c'est de les envoyer en prison.
Charles,
Et qu'est-ce que vous dites de Carlisle, s'il vous plaît.
Donc, si je suis votre raisonnement, et si je vais jusqu'au bout de votre raisonnement, face à ce que Charles représente ou ce que la classe dominante représente, finalement, casser ou tout détruire, ça paraît normal. Pour renverser la classe dominante.
Moi, il y a deux choses.
Non, que je c'est vous l'insurrection.
Oui, c'est l'insurrection. Oui, c'est ça. C'est cassé.
La révolution permanente. La victoire du PSG, c'est pas l'insurrection.
Non. Enfin, je veux dire. Je dis simplement.
Non, mais je veux dire. Moi, évidemment, je pense qu'il y a un besoin de radicalité pour faire face à la radicalité des classes dominantes. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est pas le problème. Le PSG, c'est pas la victoire du PSG, c'est pas un mouvement politique. Moi, ce que je vous explique, c'est que le traitement qu'en est fait par les médias et les classes dominantes, bien sûr, est politique et sert la rhétorique de Zemmour qui nous explique qu'il y a un djihad du quotidien. Mais face à ça, moi, évidemment, que je pense qu'au niveau de crise, de guerre, de misère sociale.
Il faut de la radicalité.
Il faut une réponse politique radicale. J'ai aucun problème avec ça. Et je pense qu'aujourd'hui, défendre que c'est possible de jeter des jeunes de 19 ans en prison parce qu'ils ont craché sur un policier, c'est indécent, c'est fou et ça ne devrait même pas exister.
Merci.
Merci.
Elsa Marcel. Merci Charles Consigny.
C'était un bonheur.